Gloire. Nous voulons te dire, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien et qu'aujourd'hui encore, nous avons besoin de toi et nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, de gloire à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur, dans le but, Seigneur, de mettre ta parole en pratique. Que toute forme d'orgueil soit chassée au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'incrédulité, Seigneur de gloire, soit chassée au nom de Jésus. Que toute forme de raisonnement soit chassée au nom de Jésus. Rends-nous, Seigneur de gloire, obéissants et captifs, Seigneur de gloire, à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Que toute œuvre des ténèbres soit nulle et sans effet au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons prendre place. Voilà, nous prenons l'évangile de Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3. Ensuite, nous irons dans Éphésiens chapitre 2. Donc, Jean chapitre 3, nous lisons à partir du verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous allons dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous retournons dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6 au verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Le premier passage que nous avons lu, il est question de la nouvelle naissance, un passage que nous connaissons où le Seigneur expliquait à Nicodème quels étaient les principes, le processus de la nouvelle naissance. En tout cas pour entrer dans le ciel, qu'il fallait naître de nouveau. Et l'une des choses qui caractérise la nouvelle naissance, c'est le fait que celui qui est né de nouveau est semblable au vent, dont on entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Simplement, on sait qu'il y a du vent, il souffle, et en quelque sorte, il ne maîtrise plus ses mouvements. Là où le vent le conduit, c'est là où il va. Donc c'est une comparaison que le Seigneur nous apporte pour nous montrer l'image de celui qui est né de nouveau. Pour nous dire simplement que celui qui est véritablement né de nouveau, qui a donné sa vie au Seigneur, ne maîtrise plus sa vie. Mais il bouge, il fonctionne en fonction du mouvement que l'Esprit lui donne. Il n'est plus maître de choisir et de décider là où il doit être, là où il veut aller. Mais il obéit tout simplement en faisant ce que le Seigneur lui demande de faire, ce que le Seigneur lui commande de faire. Dans Éphésiens chapitre 2, il est aussi question de la nouvelle naissance, en tout cas du salut. On nous explique clairement que le salut ne vient pas de nous. Le salut vient du Seigneur. Dans Jean chapitre 3, on nous dit que naître de nouveau, on nous explique que c'est aussi un choix. Tout commence par le choix que nous faisons. Ensuite, le Saint-Esprit prend la relève pour diriger et contrôler notre vie. Et dans Éphésiens 2, on nous dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce qui veut dire que même si le salut est un don gratuit de Dieu, ça nécessite néanmoins que nous nous mettions la foi. Notre part à nous, c'est de croire à la promesse du Seigneur en ce qui concerne le salut, afin de vivre véritablement dans ce plan de salut. Et ce plan de salut, toujours dans Éphésiens, on nous dit que finalement dans ce plan, il est inclus les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Donc dès l'instant où nous entrons dans le salut de Dieu, c'est vrai que nous héritons de toutes les promesses du Seigneur, nous héritons de la vie éternelle, nous héritons de dons spirituels, des bénédictions que nous pouvons vivre sur la terre, mais aussi le plan de Dieu préparé d'avance, les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Est-ce qu'on peut calmer l'enfant, s'il vous plaît? Les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Donc, tout est déjà préparé. Nous devons tout simplement vivre, nous attendre au Seigneur et mettre la foi dans le plan qu'il a pour nous. Et ensuite, nous vivrons le plan que le Seigneur a déjà préparé pour nous. Et dans Jean 6, il nous est dit que c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit qu'il ne mettra pas dehors celui, tous ceux qui viendront à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu faire la volonté, sa propre volonté, mais il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc nous voyons là l'image, l'attitude de celui qui ne vit plus pour lui, mais qui vit pour le plan pour lequel on l'a emmené sur la terre. Donc il dit, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc nous voyons dans les trois versets, les trois passages que nous avons lus, ce qui revient c'est le côté obéissance, le côté direction du Saint-Esprit, le côté qui nous montre clairement que lorsque nous sommes nés de nouveau, alors nous ne maîtrisons plus notre vie ne nous appartient plus et nous ne vivons plus pour nos projets, mais nous vivons exclusivement pour vivre les promesses du Seigneur, le plan du Seigneur. Ainsi, celui qui se dit enfant de Dieu doit comprendre, doit adhérer à cette logique, doit se soumettre à cette logique qu'il ne vit plus pour ses propres projets, mais il vit uniquement pour vivre les plans que le Seigneur a préparés d'avance pour lui et obéir. Donc il ne fait plus sa volonté, mais il fait la volonté désormais de celui qui l'a sauvé, celui qu'il reconnaît comme étant son maître. Donc si aujourd'hui nous sommes réellement des enfants de Dieu, des disciples de Christ, nous ne pouvons plus dire que j'ai des projets, j'ai des objectifs. Tout ce que nous pouvons appeler projets et objectifs doivent être formés avec le Seigneur, en collaboration avec le Seigneur et en accord avec les Écritures. On ne peut pas aujourd'hui avoir des projets qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et de dire que ça vient de Dieu. Je me souviens lorsque je me suis converti, j'avais en tête plein de projets. Et venant dans le Seigneur, j'ai prié pour ces projets-là. Bien entendu qu'ils n'ont jamais réussi. Ce n'étaient pas forcément des projets qui étaient mauvais, mais c'était des projets que j'avais ramenés du monde dans l'Église. Et ça ne venait pas de Dieu. Et beaucoup sont déçus. Parce que quelquefois, ils ont des sentiments, ils ont des volontés dans leur cœur, bien que ces projets, peuvent être, ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Néanmoins, c'était des projets qui existaient depuis l'ancienne vie. Et venant dans le Seigneur, on prie, on les présente devant Dieu, comme si c'était quelque chose qui venait du Seigneur. Et quand les choses n'y arrivent pas, on se dit, tiens, Dieu ne m'a pas entendu ou Dieu m'a oublié. Non. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas concertés. Est-ce qu'au moment où nous nous sommes convertis, nous avons réellement rejeté tout ce que nous avons autrefois comme pensée, ou nous sommes venus avec ces choses-là et de dire, Seigneur, moi c'est comme ça que c'est ça que je voulais autrefois, donc je viens prier pour que tu m'exauces. Ça ne marche pas comme ça. Si nous sommes nés de nouveau, alors tout ce qui était autrefois, ça doit rester à autrefois, ça doit rester dans le passé, et nous devons désormais chercher à vivre quels sont les projets que le Seigneur a pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux vivre pour être agréable à Dieu? Il y a des choses que le Seigneur peut nous révéler, des choses pour lesquelles le Seigneur peut nous éclairer pour l'avenir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la manière dont nous devons vivre pour être agréable à Dieu est déjà décrite dans la parole de Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur dit « Je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé », le Seigneur était en train d'expliquer qu'il savait pourquoi il était venu sur terre. Il savait pourquoi il avait accepté cette mission. Parce qu'il dit, tout ce que le Père m'a donné, j'en ai perdu aucun. Et là, dans le verset 37 que nous avons lu, il dit que je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Donc, il connaissait sa mission qui était de recevoir tous ceux qui avaient soif de Dieu et de les amener jusqu'à l'objectif pour lequel il était venu. C'était pour ça qu'il vivait et il ne vivait uniquement pour ça. Ainsi, celui qui est né de nouveau doit comprendre qu'il doit vivre uniquement pour ce qui est écrit. Nous devons vivre uniquement pour ce qui est écrit. Si nous vivons aujourd'hui, c'est pour que la parole de Dieu s'accomplisse en nous, non pas les projets que les parents voulaient pour nous, les projets que certains professeurs avaient formés sur nous, que certains éducateurs avaient formés sur nous. Tu es très fort dans telle matière, certainement tu feras ceci, certainement tu arriveras là. C'est pas ça. Nous devons vivre ce qui est écrit concrètement. Donc notre volonté doit être manifestée dans le fait que, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà, je suis disposé, je suis disponible. Quel est le plan de ma vie pour toi, pour te servir? Et nous savons qu'en partie, toutes les choses nous ont été données dans la parole de Dieu. Donc notre souci à nous désormais doit être simplement de vivre ce qui est écrit. De vivre ce qui est écrit. Souvenons-nous lorsque le Seigneur parle à Josué. Il dit, Josué, j'ai été fidèle avec Moïse et je serai aussi fidèle avec toi. Si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Si tu pratiques ma parole. Donc l'objectif pour lequel je t'ai suscité après Moïse, pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, passe par l'accomplissement des commandements que j'ai laissés. Si tu veux réussir, il n'y a pas de secret. Ne réfléchis pas trop loin. Comment je vais faire? Comment je vais me battre? Non. Sachant que le pays de Canaan, il fallait le conquérir avec les armes. Mais le Seigneur ne lui a pas dit, constitue une armée, entraîne des soldats. Il a dit, non. Si tu veux réussir dans cette mission, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ainsi, si nous voulons véritablement vivre le plan de Dieu pour notre vie, que la Bible ne s'éloigne pas de nous. Cherchons tout simplement à accomplir ce qui a été écrit. Nous avons lu dans Éphésiens 2:10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc ce que nous devons vivre est déjà préparé par le Seigneur. C'est par l'obéissance et dans la marche chrétienne, en nous soumettant à la parole de Dieu, que nous allons vivre et expérimenter le plan de Dieu pour notre vie. Beaucoup sont à côté du plan de Dieu uniquement parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Ils cherchent à vivre la vie chrétienne avec leur propre conception. Ils veulent mélanger et leur intelligence et quelques versets de la Bible pour trouver des solutions. Avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Soit nous vivons la Bible, ainsi nous expérimentons aussi les promesses du Seigneur, mais si nous mélangeons un peu de ce que nous pensons et un peu de ce que la Bible dit, c'est normal que nous tournons en rond. C'est normal que les promesses du Seigneur tardent à s'accomplir. Ce que nous devons faire, c'est vivre uniquement le plan de Dieu qui nous a été montré dans les Écritures. Le juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est aussi la parole de Dieu. Parce que la foi que nous mettons, nous la mettons dans l'Écriture. Celui qui vit aujourd'hui selon sa propre conception, bien aimé, c'est à cause de ça qu'il existe aujourd'hui beaucoup de mouvements, beaucoup de sectes. Parce que les gens ont refusé de se contenter de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'était pas suffisante à leurs yeux. Ils ont ajouté un petit peu de leur truc. Et ce qui a fait naître, je dirais, le catholicisme, ce qui a fait naître les témoins de Jéhovah, ce qui a fait naître certaines congrégations même protestantes. Pourquoi? Parce que chacun a voulu être différent de l'autre et ajouter sa petite pierre à l'édifice. Et à force d'ajouter, ils sont totalement sortis de la parole de Dieu. Et à force d'ajouter un peu de nous, nous sortons aussi du plan de Dieu. Ce que nous devons être sûrs, c'est que ce que le Seigneur a prévu pour nous, bien-aimés, il l'a prévu d'une manière parfaite. Et cette perfection-là, nous pouvons la toucher uniquement que si nous nous efforçons de vivre les promesses du Seigneur, de vivre dans la parole de Dieu. Il est évident, comme la Bible nous dit, que la chair est faible. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous demande de faire que la chair n'accepte pas. Et d'ailleurs, la plupart des choses que la Bible nous demande de faire, la chair ne l'accepte pas, parce que la chair n'accepte pas les choses de l'esprit. Mais une chose est certaine aussi, c'est que nous avons reçu le don du Saint-Esprit afin d'être capables de vivre les promesses de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean 3:8 que comme le vent souffle où il veut, ce qui veut dire que nous n'avons même pas à nous soucier de la manière dont nous allons entrer dans le plan de Dieu. Puisque comme le vent souffle où il veut, il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça veut dire que celui qui est né véritablement de Dieu n'a plus le souci de savoir est-ce que je vais à gauche ou à droite. Lui, ce qu'il fait, il obéit tout simplement à ce qui est écrit et il a cette assurance-là que là où il sera, c'est là où Dieu veut qu'il soit. Parce que lorsqu'il se regarde dans le miroir, il n'a rien à se reprocher. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça veut dire tout simplement qu'il s'est efforcé de faire ce que Dieu attendait de lui. Ainsi, quelles que soient les situations dans lesquelles il se trouve, il a cette assurance-là d'être dans la volonté de Dieu. Et c'est de cette manière-là que nous voyons aussi l'issue que le Seigneur prépare. Dans une des églises d'Apocalypse, le Seigneur dit, « Tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé ma parole, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. » Non pas parce que tu étais fort ou intelligent. Il dit, « Tu as peu de puissance, mais parce que tu as gardé ma parole. » Donc, même si la situation semblait défavorable et que tu semblais démuni par rapport aux situations que tu devais régler, mais parce que tu t'es attaché à ma parole, je te donne la solution maintenant. Et beaucoup de solutions que nous cherchons, que nous ne trouvons pas, c'est uniquement parce que nous ne vivons pas la parole de Dieu. Celui qui s'attarde à vivre, comme le Seigneur l'a dit à Josué, vis selon la parole, vis selon ces commandements-là, c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès. Ne cherche pas trop loin. De savoir avec combien de soldats tu vas aller, de savoir combien d'hommes tu dois prendre. Non, mon problème c'est que tu pratiques la parole de Dieu. Et comme j'ai été fidèle avec Moïse, je serai aussi fidèle avec toi. La solution au problème que nous cherchons ne se trouve pas, bien aimé, dans des longues réflexions. Ne se trouve pas dans les murmures, dans la colère, mais se trouve tout simplement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu ne se pose même pas la question de savoir, Seigneur, comment il fera. Il a cette assurance-là que Dieu fera. Que Dieu fasse aujourd'hui, que Dieu fasse demain, que Dieu fasse en faisant pleuvoir ou en faisant tel miracle, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que j'ai l'assurance que Dieu fera. Ainsi, je ne m'inquiète pas de la manière dont le Seigneur va intervenir, parce que ce qui m'importe, moi, c'est de vivre ce que le Seigneur me demande de vivre aujourd'hui. Dans Jérémie 29, 11, toujours dans la même idée, le Seigneur dit clairement qu'il connaît les plans, les projets qu'il a pour nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Voilà, le Seigneur dit qu'il connaît les plans qu'il a formés sur nous. Qu'est-ce qui nous éloigne, qu'est-ce qui nous empêche quelquefois d'obéir à la parole de Dieu? C'est le manque d'assurance, le manque de foi. Souvenons-nous lorsque Saül a péché, alors que le Seigneur lui avait demandé d'attendre que Samuel vienne pour faire le sacrifice, pour offrir le sacrifice, Samuel dit qu'il a eu peur parce qu'il a vu que les soldats étaient en train de partir. Et comme Samuel tardait, il a lui-même fait le sacrifice. Et c'est dans le même chapitre où Samuel va dire à Saül, mais est-ce que le Seigneur prend plaisir au sacrifice? Voici, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et le Seigneur lui-même va dire, dans l'un des psaumes, il dit, mais est-ce que moi je mange la nourriture? Est-ce que je mange ces sacrifices-là? Il dit, la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Les sacrifices que vous faites, moi je ne les mange pas. Dieu prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Et beaucoup de fois, nous passons à côté du plan du Seigneur, parce que le doute est là. Lorsque la situation semble fermée, lorsque la solution semble lointaine, la patience nous manque et nous prenons des décisions par notre propre intelligence, de notre propre chef, et ainsi nous passons à côté de la volonté de Dieu parce qu'il y a eu le doute qui a été là. Or, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je dis souvent qu'il y a des situations, c'est vrai, qui nous dépassent, des situations dans lesquelles on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, de ne pas voir de solution. Et je dis souvent, ce qui est important, c'est que même si nous ne savons pas ce qui se passe, ce qui est important, c'est que le Seigneur, lui, sait ce qui se passe. Et c'est ça qui est important. C'est que même si on ne comprend pas, mais le Seigneur, lui, comprend. Ainsi, même si le projet que le Seigneur a formé pour nous, on ne connaît pas vraiment, on ne voit pas vraiment là où le Seigneur va en venir, les choses ne sont pas bien définies. Mais le Seigneur dit, moi je connais les projets. Et c'est ça qui est important. C'est que celui qui est à la base de ce projet connaît lui-même le projet. Et puisqu'il le connaît, ben il saura aussi comment nous y emmener. Et c'est là où nous devons mettre notre foi. Selon qu'il est écrit, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Si nous avons mis notre assurance dans le sacrifice de Jésus-Christ, sans réellement comprendre qu'est-ce qui fait qu'un homme meurt et que toute l'humanité a le droit au salut, c'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer mathématiquement. C'est un phénomène qui n'est pas rationnel. Donc, à partir de là, nous avons cru, sans réellement tout comprendre, mais nous avons mis la foi dans le sacrifice du Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais ce processus-là qui a été valable au moment où nous sommes nés de nouveau, mais c'est un fonctionnement qui doit continuer même dans la vie chrétienne. Donc je ne vois pas forcément là où Dieu veut m'emmener. Je ne comprends pas pourquoi cette épreuve-là. Mais ce que je sais, c'est que Dieu, lui, sait où il va. Il sait où il m'emmène. Donc ma part à moi, c'est tout simplement de mettre ma foi dans le Seigneur. Ainsi, je vais expérimenter et vivre le plan que le Seigneur a formé pour moi. Pourquoi ? Parce que Dieu dit que ce n'est pas un plan de malheur. Il dit projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, je sais par la foi que le Seigneur ne me veut pas du mal. Donc, s'il permet quelque chose, il le permet dans son amour. Ma part à moi, c'est simplement d'accomplir sa volonté et de pratiquer ce qu'il me demande. Ce que le Seigneur était venu faire en mourant sur la croix, bien aimé, ce n'était pas quelque chose qui était simple. Nous voyons dans la parole de Dieu, à 2-3 reprises, où le Seigneur a été irrité même du manque de foi de ses disciples. Où le Seigneur était, a prié, a dit « Seigneur, mais si cette coupe peut s'éloigner de moi ?» Et il est revenu à lui-même, il a dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais Seigneur, ce que toi tu veux. » Donc on a vu qu'il y a eu des moments de faiblesse du Seigneur qui nous montrent clairement que la mission, que la tâche était très compliquée. Mais il a dit « Non pas ce que je veux, ce que toi tu veux. » Parce qu'il était venu accomplir les œuvres que le Père avait déjà préparées à l'avance. Et son but à lui, c'était de vivre pour que cette parole-là s'accomplisse en lui. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des témoins qui doivent être utiles à l'accomplissement de la parole de Dieu. Que les gens de l'extérieur, ceux qui n'ont pas pu comprendre, ceux qui n'ont pas pu voir à travers nous, ils puissent voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Que la parole devienne chair en nous, que ce que nous entendons, que ce que nous avons compris de Dieu, nous puissions le vivre afin que ceux qui ne l'ont pas compris, ceux qui ne l'ont pas entendu, dans notre manière de vivre, ils puissent contempler la parole de Dieu. Que nous puissions dire, Seigneur, moi je ne veux pas. C'est vrai que c'est difficile de vivre ça, Seigneur, mais afin que la parole s'accomplisse, je vais accepter. On te dit, si on te frappe une joue, tu tends l'autre. Seigneur, charnellement, je ne peux pas faire ça. Là, je suis dans une situation où si je cède, il va continuer à m'embêter. Mais Seigneur, toutefois, puisque c'est écrit, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. C'est là où le Seigneur nous attend, que nous puissions vivre et accomplir ce qui est écrit. Puisque la situation que nous vivons à ce moment-là, même si elle est désagréable, elle est pour la gloire de Dieu et elle fait partie des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Tu te retrouves dans une situation pour laquelle tu n'as rien demandé à personne. Alors comprends tout simplement que c'est le Seigneur qui t'a mené là. Ça fait partie des œuvres préparées d'avance afin que ce qui est écrit soit accompli en toi. L'attitude que tu dois adopter, c'est une attitude que le Seigneur te demande d'adopter, déjà écrite dans sa parole. Ainsi, nous pourrons dire comme le Seigneur, afin que l'écriture s'accomplisse, Seigneur, je vais tout simplement le faire. Non pas parce que j'ai choisi. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous prenons Jean chapitre 12. À partir du verset 12, Jean 12:12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui était écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Il se souvint que les choses avaient été écrites. Pourquoi le souvenir est revenu? Parce qu'ils l'ont vu sous leurs yeux. C'était des paroles qu'ils avaient entendues, mais c'était certainement des paroles qu'ils avaient oubliées. Et le fait que le Seigneur accomplisse cette parole-là, parce que les choses avaient été annoncées, les choses avaient été préparées pour sa venue, alors cela a ouvert les yeux de ceux qui avaient entendu par là. Et là, c'était un jour de gloire pour le Seigneur, humainement parlant. Parce que les gens acclamaient, les gens ont vu la promesse du Seigneur s'accomplir. Ainsi, le Seigneur peut nous utiliser aussi dans des moments où les gens auront cette curiosité d'entendre parler du Seigneur. Mais si à ce moment-là, nous ne faisons pas ce qu'il convient de faire, on passe à côté du plan de Dieu. La Bible nous dit que, étant venu à Jérusalem, la foule avait entendu. Et ils ont eu la curiosité de voir. Ils ont eu la curiosité d'entendre le Seigneur. Et la Bible nous dit que, selon ce qui était écrit, le Seigneur est monté sur le petit d'une ânesse. Et les disciples se sont souvenus que c'était écrit. Le Seigneur est venu vivre et accomplir ce qui était écrit. Il n'a rien inventé de sa vie. Il n'a pas cherché à faire les choses d'une manière différente de ce que le Seigneur voulait. Il n'a pas cherché à aider Dieu, mais il s'est contenté de vivre ce qui avait été annoncé, ce qui était écrit. Bien-aimés, on ne peut pas inventer la vie chrétienne. On ne peut pas inventer une doctrine chrétienne. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions vivre à l'image de ce qui a été écrit. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent inventer leur vie chrétienne en disant qu'ils n'ont pas besoin de chrétiens, qu'ils n'ont pas besoin de frères, qu'ils n'ont pas besoin de pasteurs, qu'ils n'ont pas besoin de responsables, et bien que étant quelquefois au milieu d'une assemblée, mais ils vivent d'une manière seule, d'une manière indépendante. C'est-à-dire ils vivent sans la notion du besoin d'une autorité spirituelle. Donc ils sont isolés, ils sont leur propre conseil, ils sont leur propre chef. Et ils inventent par là une nouvelle vie chrétienne. Mais le Seigneur n'a rien inventé. Il a voulu vivre selon ce qui était écrit. Ainsi, lorsque nous vivons selon le plan de Dieu, n'inventons pas la vie chrétienne. La Bible dit que les disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fonction du pain. Ils persévéraient dans les prières, dans les enseignements des apôtres. Voilà l'image de l'Église qui était favorable aux yeux de Dieu, qui était agréable aux yeux du Seigneur. Parce que la conséquence, c'est que la Bible nous dit « Et Dieu faisait des prodiges et des miracles par les apôtres. » Dieu ajoutait à l'Église ceux qui devaient être sauvés. La manière dont ces gens vivaient était une manière agréable à Dieu. Parce qu'ils vivaient simplement ce que le Seigneur leur avait laissé. La manière dont ils vivaient, ils n'avaient rien inventé. N'inventons rien, mais vivons tout simplement ce qui a été écrit. Accomplissons la parole de Dieu dans ce qui est écrit. C'est à ceci, le Seigneur dit, que si vous vous aimez les uns les autres, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand on a appelé les premiers chrétiens chrétiens, on les a appelés parce que leur mode de vie était semblable à celui de Jésus. Ils ont accompli les commandements que le Seigneur avait laissés aux apôtres et ils n'ont fait que reproduire ces choses-là. Ils n'ont rien inventé. Et ainsi, la gloire de Dieu a été manifestée. C'est à cela que nous sommes appelés, bien-aimés, à vivre ce qui est écrit. N'inventons pas en disant « moi je pense que ». Ce que nous pensons, en réalité le Seigneur, ça ne lui importe pas. Ça ne lui importe pas ce que nous pensons. Ce que nous pensons ne produit pas la vie. Nous avons longtemps pensé, bien-aimés, et si nous devions continuer à penser par nous-mêmes, alors ce n'était pas la peine de devenir chrétien. Mais si nous sommes devenus chrétiens, c'est qu'à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que ma manière de penser et de voir la vie, ce n'était pas ça. Alors, puisque nous avons commencé dans l'obéissance, continuons aussi dans l'obéissance. Comme l'apôtre Paul dit aux Galates, mais vous avez commencé par l'esprit. Vous voulez désormais continuer à achever dans la chair. Non, nous avons continué, nous avons reconnu que notre vie passée devait rester dans le passé, que notre manière de vivre n'était pas agréable aux yeux de Dieu et que désormais nous voulons vivre en fonction de la parole de Dieu. Et comme il est écrit, le Seigneur a fait les choses ainsi, selon ce qui était écrit. Et les disciples se sont rappelés que oui, c'était écrit, que les choses devaient se passer ainsi. Les choses devaient se passer ainsi. Il y a des personnes qui disent que vivre la Bible, ce n'est pas possible. Et ce sont des langages qu'on entend même des fois dans l'église, où les gens, pour contourner ce qui peut être difficile à accepter, ils disent « oui, mais c'était à leur époque, il faut comprendre le contexte ». Non, la Bible est actuelle. La Bible est pour le présent. La Bible, c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour ceux qui étaient hier. Non, ce que le Seigneur nous demande de vivre, c'est aujourd'hui qu'il nous demande de vivre. Sinon, l'humanité se serait arrêtée au temps de Jésus. Et puis, la parole ne serait jamais parvenue jusqu'ici, jusqu'à notre temps. Mais si nous avons la parole aujourd'hui, c'est bien parce qu'elle doit être valable aujourd'hui. Ainsi, nous pouvons pratiquer la parole de Dieu aujourd'hui, quel que soit le contexte de vie, quel que soit le pays dans lequel nous sommes, la Bible est toujours actuelle et toujours valable. Nous prenons Jean chapitre 12. Toujours Jean chapitre 12, pardon, verset 35. Jean 12, 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Aussi ne pouvaient-ils croire parce que Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Jésus fit tant de miracles, beaucoup de miracles. Et la Bible nous dit même que s'il fallait dire tout ce que le Seigneur avait fait, il n'y a aucun livre qui ne pourrait le contenir. Alors, malgré ces miracles, malgré les exploits que le Seigneur a faits, la Bible nous dit que beaucoup n'ont pas cru. Pourquoi ? Afin que l'Écriture aussi s'accomplisse selon ce que Ésaïe avait annoncé. Il y a des choses qui peuvent être difficiles à vivre. Quelquefois, ou bien souvent, les chrétiens aiment travailler pour ce qui va produire du fruit. Si on l'envoie quelque part en disant d'avance que ça sera l'échec, humainement parlant, on n'a pas envie de s'engager dans quelque chose qui ne va rien produire. Mais voici, le Seigneur, lorsqu'il venait, il connaissait la mission. Il connaissait le plan que le Père avait préparé. Donc il savait très bien qu'en venant, certains aussi allaient tout simplement refuser. Refuser de croire, refuser d'avouer, refuser de se soumettre aux paroles du Seigneur. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a fait marche arrière. Ce n'est pas pour ça qu'il a fait les choses selon lui, en disant « ça ne sert à rien que je prêche ici, ils ne vont pas croire, je vais ailleurs ». Il a fait les choses comme le Père lui avait demandé de le faire. Son but à lui, ce n'était pas de se concentrer sur le résultat, c'était de se concentrer sur la mission. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est ne pas de commencer à réfléchir. Si j'applique ce verset-là, est-ce que telle personne va se convertir? Si je fais comme ça, est-ce que ça va provoquer? Non, ce que le Seigneur nous demande, c'est tout simplement de vivre la parole, de vivre ce qui a été écrit, ce qui se produira après. Soit bien, soit mal, soit bon, soit mauvais, ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient à nous, c'est tout simplement de vivre la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de lui prêcher à lui. On a déjà prêché hier, c'est un têtu, il risque en plus de s'énerver. Alors tu es arrivé devant, tu sens que dans ton cœur tu dois dire quelque chose. Mais comme tu as vu le visage, tu te dis, lui, il n'écoutera pas. Alors tu ne le fais pas. Et là, nous passons à côté du plan de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas dit de faire les choses simplement parce que nous verrons un résultat qui va nous satisfaire. Lorsqu'on prêche la parole, bien entendu que c'est pour sauver. Mais la parole de Dieu, c'est aussi un jugement pour ceux qui refuseront le Seigneur. Parce que ceux qui se présenteront devant le Seigneur, qui auront refusé, ils ne pourront pas dire que je n'avais pas entendu. Dieu les jugera parce qu'ils avaient eu connaissance du salut du Seigneur. Et c'est aussi dans notre responsabilité d'annoncer l'évangile, certainement pour sauver, mais aussi d'une certaine manière pour que le monde soit jugé. C'est dans notre responsabilité. Et le Seigneur était venu, sachant que comme Ésaïe avait annoncé, qu'il n'allait pas croire. Mais il l'a fait, parce que c'était écrit. Il n'était pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qu'il avait envoyé. Ainsi, bien-aimés, on peut rencontrer des échecs, entre guillemets, avec Dieu on gagne toujours. Mais humainement parlant, il y a des situations qui peuvent paraître comme des échecs. Ça ne doit pas être un problème pour nous. Ce que nous devons faire, c'est obéir tout simplement à Dieu. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Donc, lorsque l'envie est là de parler de la part de Dieu, mais qu'on commence à réfléchir, il ne va pas accepter, et qu'on repart tout triste parce que c'est comme si on nous avait mis KO deuxième round, bien aimé, alors c'est qu'on n'a pas accepté ce qui était écrit. Les échecs en ce qui concerne l'annonce de l'évangile sont aussi dans la parole de Dieu. Et on doit aussi l'accepter parce que c'est écrit. Tous les hommes ne se convertiront pas. Tous les hommes ne se soumettront pas à la volonté de Dieu. Peut-être même des personnes que nous connaissons. Ce sont des réalités qui sont dures, mais ce sont des réalités que nous devons accepter. Sinon, nous serons comptés parmi le nombre de ceux que le Seigneur a parlé dans Matthieu 24, quand il a dit que l'amour d'un grand homme va se refroidir parce que l'iniquité ne va faire que s'accroître. Beaucoup de nous peuvent se décourager. Et comme je partage avec un frère, il y a des situations quelquefois qui nous poussent à agir charnellement. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, il y a des situations, on a envie d'agir charnellement. On a envie de se rebeller charnellement. Mais on finirait par tomber dans le piège et sortir de la volonté de Dieu. Alors on n'a pas le choix. Parce que tout ce qui peut nous conduire à agir charnellement, ce sont des choses que le Seigneur a déjà annoncées. Donc on ne peut pas être surpris. Le mal existe, le mal est une réalité. Et on doit l'accepter. Il y a des gens qui ne veulent pas de Dieu, on doit l'accepter. Il y a des gens qui refuseront, même sous le lit de mort, qui refuseront le Seigneur. C'est une réalité qu'on doit accepter. Mais que cette réalité-là ne nous empêche pas, nous, de faire notre part. De vivre en fonction de ce qui est écrit. De faire les choses comme les choses ont été annoncées. N'inventons rien, bien-aimés. Vivons tout simplement tel que les choses sont écrites. Et c'est ainsi que nous réussirons, c'est ainsi que nous aurons du succès dans toutes nos entreprises, comme le Seigneur l'a dit à Josué. Cette parole est aussi pour nous. Nous prenons encore un cas aussi, je dirais, de déception, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. Jean 19, au verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Est-ce que ce n'est pas plus agréable de boire de l'eau fraîche quand on a soif plutôt que de boire du vinaigre? Et le Seigneur dit au verset 29, au verset 28, pardon, Jésus savait que tout était déjà consommé. Tout était déjà consommé, c'est-à-dire son œuvre avait déjà été accomplie. Mais il dit non, il y avait encore quelque chose dont la Bible parlait. Afin que l'Écriture s'accomplisse, j'ai soif. Parce que les Écritures avaient annoncé que les choses devaient se passer comme ça, qu'on lui avait donné du vinaigre. Alors, afin que l'Écriture s'accomplisse, j'ai soif. Il y a beaucoup de choses que nous faisons ou que nous devons faire, bien-aimés, pour nous qui sont peut-être inutiles, dans lesquelles on n'a peut-être aucun intérêt. Mais par amour pour les autres, par amour que les autres soient sauvés, il y a des choses aussi que le Seigneur nous demandera de faire. Même si nous, on ne gagnera rien du tout. Même si ça ne changera pas le cours de notre vie, le sort de notre vie, il y a des choses que nous serons amenés à faire. Nous avons lu tout à l'heure que lorsque le Seigneur est monté sur le petit de l'ânesse, les disciples se sont souvenus que c'était écrit. Lorsqu'ils ont vu cet acte s'accomplir, ils se sont souvenus que ça avait été écrit. Ainsi, dans la volonté toujours de sauver, le Seigneur, sachant que tout était consommé, tout était accompli, mais afin que l'Écriture s'accomplisse, j'ai soif. De manière à ce que cet acte-là soit un témoignage de plus pour tous ceux qui étaient autour, pour tous ceux qui avaient vu, pour tous ceux qui avaient lu les prophéties d'Ésaïe, se souviennent que ce qu'il a fait là avait aussi été annoncé. Ce n'est pas que le Seigneur avait besoin de boire. Il savait que son heure était terminée. Mais c'était afin de rendre témoignage à la parole de Dieu. Il n'avait pas besoin de ça. Mais pour que les gens comprennent que la parole de Dieu était réelle, il a accompli ce qui était écrit. Il y a beaucoup de choses que nous mettons sur le compte de qui est inutile, bien-aimé, mais que Dieu nous demande de faire. Ça ne nous coûte rien. Pour que la parole s'accomplisse, bien-aimé, faisant. Tu es dans ton droit par rapport à certaines choses. Quand on te demande, peut-être de céder, mais tu es dans ton droit de garder ce bien-là. Mais uniquement pour que la volonté de Dieu soit parfaite, que la parole de Dieu s'accomplisse, cède la chose tout simplement. Ça ne te coûte rien du tout, ça ne changera pas le cours de ta vie, ça ne changera pas le sort de ton salut. Donnons tout simplement. Et comme le vent nous conduit, le Saint-Esprit nous conduira. Comme je l'ai dit, celui qui est né de Dieu, il n'a plus besoin de réfléchir sur les choses qu'il doit accomplir ou pas. Lui, il s'attarde tout simplement à vivre la parole de Dieu au quotidien. Et dans sa communion avec Dieu, il a l'assurance que l'œuvre que Dieu lui demande de faire aujourd'hui, ça fait partie du projet de sa vie. Et il le fait en fonction de ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Uniquement pour que la gloire revienne au Seigneur. Je ne voulais pas ça. Tu vas quelque part et tu n'as pas faim. Mais voilà, la personne a prêté, a fait en sorte de faire les choses bien. Tu n'as pas faim. Ça te coûte quoi de goûter à quelque chose ? Uniquement pour mettre la personne à l'aise. Ça ne te coûte rien, ça ne changera pas le sort de ta vie. Non, même si tu ne voulais pas manger ça, mais tu sais que la personne a fait l'effort quand même pour te satisfaire, qu'est-ce que ça te coûte de manger ça ? Ça ne te coûte rien. Donc pour gagner l'autre, mange tout simplement. Goûte tout simplement. Ne pas goûter va peut-être déstabiliser la personne, va emmener la personne dans des murmures, dans une tristesse. Mais toi, qu'est-ce que ça t'aurait coûté de goûter à la cuisse de poulet ? Même si tu n'en voulais pas spécialement, qu'est-ce que ça t'aurait coûté ? Rien du tout. Mais pour que la parole de Dieu s'accomplisse, fais-le tout simplement. Fais-le tout simplement. Et la gloire reviendra au Seigneur. Nous continuons la lecture au verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne rompit pas les jambes. Le fait de rompre les jambes permettait tout simplement d'accélérer la mort. Mais un des soldats, verset 34, lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qui ont percé. Voilà, le Seigneur est mort. On veut accélérer la mort en brisant les jambes, mais l'Écriture avait annoncé que aucun de ses os ne sera brisé. Mais le Seigneur était là, maintenant dans une incapacité d'accomplir. Mais voici, il n'était pas seul, parce que le Seigneur aussi fait sa part. Et Dieu a fait sa part. Pendant que le Seigneur avait rendu son esprit, le Seigneur a veillé que les choses se fassent telles que lui l'avait décidé. Ainsi, bien-aimés, nous devons comprendre le privilège que nous avons d'être des participants à la gloire de Dieu. Parce que avec ou sans nous, la parole de Dieu s'accomplira. Avec ou sans nous, la parole de Dieu s'accomplira. Le Seigneur dit dans Jérémie 1:12 que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille que sa parole s'accomplit. Au moment où le Seigneur est déjà mort, il n'avait plus les moyens de défendre la parole de Dieu, ce qui avait été écrit. Mais Dieu lui-même veillait à ce que ce qui a été écrit s'accomplisse tel que lui l'avait décidé. Ainsi, bien-aimés, là où le Seigneur nous appelle, lorsqu'il nous interpelle pour le servir, pour se lever pour lui, c'est une grâce pour nous. l'apôtre Paul dit que sa récompense à lui, c'est de prêcher l'évangile. Donc, il considère ça comme une récompense parce qu'il ne méritait pas. Donc, pour lui prêcher l'évangile, c'est un cadeau que Dieu lui fait. Et il ne s'en est point privé. Ainsi, si nous, nous ne le faisons pas, le Seigneur a dit que même si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Ainsi, ce que nous devons accomplir, si nous ne le faisons pas, Dieu utilisera d'autres personnes. Ce qui est sûr et certain, c'est que la parole de Dieu s'accomplira. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des ouvriers avec lui. C'est que cette parole s'accomplisse avec nous, que nous soyons des participants à sa gloire. C'est ça que Dieu veut. Donc notre, c'est un privilège pour nous. Et lorsqu'on réalise ça, bien-aimé, on ne peut pas, je dirais, se mettre des bâtons dans les roues pour ne pas vivre selon ce qui est écrit. Les choses sont annoncées d'avance, faisons simplement confiance à Dieu. Et ensuite, nous vivrons sa gloire et nous vivrons aussi les Écritures telles qu'elles ont été écrites. Mais Dieu lui fait sa part, il a veillé. Et comme les choses avaient été écrites, les choses aussi se sont passées ainsi. Nous clôturons avec Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. Au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors nous voyons tout simplement dans ce passage-là la souveraineté du Seigneur. La souveraineté du Seigneur dans le titre qu'il avait. Car la Bible nous dit qu'il était égal à Dieu. Il était égal à Dieu. Et la souveraineté aussi dans, tout simplement dans sa décision. Le Seigneur pouvait à tout moment donné renoncer à cette mission. Il pouvait l'arrêter quand il voulait. Il dit dans Jean 10 que personne ne me ôte la vie. Personne ne m'enlève la vie. Mais j'ai reçu l'autorité de la donner et de la reprendre. Le Seigneur était souverain sur sa propre vie. Mais sa vie, la mission dépendait de sa vie. Et cette mission, notre salut dépendait aussi de cette mission. Et le Seigneur s'est rendu obéissant, la Bible dit, jusqu'à la mort de la croix. Ce qui veut dire tout simplement que accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé était avant tout une question de choix. Il avait le choix de dire oui, il avait le choix de dire non. Il avait le choix de dire je continue, il avait le choix de dire j'arrête là. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Dieu nous a créés aussi libres. Ainsi, vivre le plan de Dieu, c'est d'abord une question de choix. On peut entendre toutes les prédications que l'on veut, mais ça reste d'abord tout une question de choix. Ainsi, la décision nous revient. Vivre selon le plan de Dieu, comprendre que notre vie ne nous appartient plus, de laisser le Saint-Esprit nous conduire où il veut, comme il veut, et ainsi nous vivrons aussi la gloire de Dieu. Et si nous la voyons d'une manière partielle sur la terre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un jour nous serons avec le Seigneur face à face. Et là, nous verrons véritablement tout le fruit du travail qu'on a fait ensemble avec le Seigneur. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur, de ses regards, se rassasiera du travail de son âme. Et un jour aussi, nous verrons aussi le travail que nous avons fait ensemble sur la terre, par la grâce de Dieu, avec le Seigneur lui-même, et nous nous réjouirons. Si ce n'est pas sur cette vie-là, dans cette vie-là, alors ça sera dans la vie avec le Seigneur. Ce qui est de loin la meilleure des choses que nous pouvons nous souhaiter les uns les autres. C'est d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur, acceptant de vivre le plan de Dieu bien-aimé et que nous puissions tout simplement faire les choses parce qu'elles ont été écrites ainsi. N'inventons rien du tout, vivant la Bible telle que le Seigneur nous l'a donnée, avec toutes ses promesses, sachant qu'il y a une rémunération aussi qui nous attend au ciel. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es notre Dieu. Et Seigneur de gloire, nous sommes, c'est vrai aussi rassurés de savoir que tu as tout préparé d'avance, Seigneur. Ainsi, nous ne voulons plus demeurer dans des formes d'inquiétude, Seigneur de gloire, sur ce que nous allons manger, de ce que nous allons vêtir, sur la question du chômage, sur la question du mariage, sur la question de l'enfantement, sur toutes les questions liées à la terre, Seigneur. Car il est écrit que tu as pour nous préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Tu as pour nous un plan de paix et non de malheur, avec un avenir et de l'espérance, Seigneur. Et nous voulons mettre foi dans tes paroles. Nous voulons mettre foi dans le plan que tu as pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à te faire confiance. Chasse de notre vie, Seigneur de gloire, toute forme de doute, Seigneur. Toute forme de doute, Seigneur de gloire. Quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous sommes, depuis combien de temps nous sommes dans cette situation, Seigneur, quel que soit, Seigneur, quel qu'il en soit, nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance et attendre en silence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons espérer en toi, parce que tu ne te trompes pas, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous voulons vivre, Seigneur de gloire, selon ce qui est écrit. Seigneur, nous ne voulons rien inventer. Nous ne voulons rien faire de nouveau, Seigneur de gloire. Car la vie chrétienne, Seigneur de gloire, est présente dans ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas nous inventer un style de vie pour dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Seigneur, nous voulons faire comme ce qui est écrit. Toi qui as envoyé ton Fils unique, il nous a montré la voie. En vivant, Seigneur de gloire, selon ce qui est écrit, il a vécu et il a cherché à vivre, Seigneur de gloire, tout ce qui avait été annoncé. Parce que sa volonté, ce n'était pas de vivre selon lui, mais de vivre selon toi, selon les commandements que tu lui avais donnés. Et voici, Seigneur de gloire, il l'a accompli. Parce qu'il t'aimait, Seigneur, nous voulons aussi t'aimer, plus que tout, afin de vivre ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur. Vois, Seigneur, la faiblesse, les faiblesses que nous pouvons manifester, que nous pouvons éprouver, Seigneur, et viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui restaures toutes choses, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur de gloire, pour toutes les fois où nous sommes sortis de ta volonté. Et nous prions, Seigneur de gloire, que dès aujourd'hui, Seigneur de gloire, que tu nous aides à tenir ferme, Seigneur, sans nous en détourner ni à gauche ni à droite, mais de vivre uniquement, Seigneur de gloire, selon ce qui est écrit. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur à toi seul, Seigneur. Merci pour l'exemple de Jésus, qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur de gloire, parce que tout ce que nous demandons selon ta volonté, Seigneur, tu nous le donnes, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que nous sommes dans ta volonté, Seigneur, dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.